Lorsque l'ANC a pris le pouvoir en Afrique du Sud, on retrouvait dans ce pays un très grand nombre d'organisations sociales. Il s'agissait peut-être d'un des pays les plus mobilisés. Après que Nelson Mandela soit sorti de prison, le pays a connu un changement social et politique important. C'était la fin de l'apartheid, la fin aussi de la division politique entre les pays de l'Afrique et l'Afrique du Sud qui avaient financé des mouvements de guérilla en Angola, au Mozambique et au Zimbabwe. L'Afrique du Sud est le pays qui est de loin le plus développé dans tout le sud de l'Afrique et peut-être aussi dans toute l'Afrique. C'est le moteur économique du continent. Durban, par exemple, est le troisième port de marchandises le plus achalandé au monde. Mais malgré les changements qui ont eu lieu au cours des années 90, l'Afrique du Sud est resté un pays dominé par une pensée politique néolibérale dont le principal chantre est Thabo Mbeki, le président. Pour savoir plus ce qui se passait en Afrique du Sud, j'ai parlé avec François Lécuyer qui revient d'un séjour de 3 années en Afrique du Sud. François Lécuyer est chargé de projet pour l'Afrique à l'organisation Alternative. Il est anthropologue de formation et dans la prochaine heure, il nous parle des projets de développement capitaliste qui sont présentement en cours en Afrique du Sud et qui influencent le cours des événements dans toute l'Afrique.
À partir du moment où l'ANC va être légalisé en 90, ils vont ce qu'on appelait United Democratic Movement ou United Democratic Front. Je me mélange parce qu'il y a un parti politique qui s'appelle comme ça aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. C'était une coalition, les partis politiques étaient bannis, mais les ONG, les blancs libéraux contre l'apartheid, des mouvements étudiants, des syndicats s'étaient mis sous ce United Democratic Front. Ça existait depuis les années 82-83, et puis c'était toléré par le gouvernement, puis ça mettait énormément de pression sur le gouvernement d'apartheid. L'ANC va démanteler ça, afin un peu de démobiliser les masses, parce que les masses, je veux dire, ça éclate un peu partout dans les townships, tout ça. Puis l'ANC veut sécuriser les négociations. C'est clair pour l'ANC, pour le leadership de l'ANC, que la transformation va se faire à travers des négociations à l'intérieur d'un cadre légal, blablabla. Il n'y aura pas de coup d'État, il n'y aura pas de... l'ANC ne fera pas la révolution, ça va se faire de façon polie et diplomate. Donc, ils ont démantelé l'UDF, qui s'est révélé être assez désavantageux pour les classes populaires, parce que les négociations, alors qu'elles commencent avec tous ces acteurs-là au départ, ça va se terminer entre qui? Surtout à partir de 92-93, les négociations vont se faire strictement entre le Parti nationaliste et l'ANC. L'ANC va prendre des ententes secrètes avec le FMI en 93 pour un prêt de 750 millions sous garantie que l'économie va être libéralisée. Donc, il va y avoir une baisse des tarifs douaniers, programme de privatisation des entreprises publiques, etc., etc. Donc ça, déjà à partir de 93, il y a comme un cadenas qui se met sur la libération des classes populaires, parce que l'ANC commence à faire un peu tout secrètement, avec le Parti nationaliste, avec la Banque mondiale, la FMI, et tout ça. Par contre, les élections de 94 vont se passer d'un côté, tout le monde s'attend à cette victoire-là, à la victoire de l'ANC. L'ANC qui est pas tout seul. L'ANC qui est en alliance avec le SACP, le South African Communist Party, et COSATU, le Congrès des syndicats sud-africains, qui est la première centrale syndicale noire au pays, la plus grosse fédération syndicale. Donc, l'ANC, les communistes, les syndicats, en alliance, vont présenter une liste unique de candidats, et ils vont gagner les élections avec environ 64-65%. C'était quoi leur plateforme électorale, leur manifeste électoral, c'était quoi? C'était un plan qui s'appelait le RDP, le Reconstruction and Development Program. RDP. Qui disait quoi? Qui disait que l'Afrique du Sud est confrontée à 2-3 problèmes bien précis. De un, étant donné que les classes noires, indiennes et métisses ont été gardées à l'extérieur de la démocratie pendant tout le siècle, c'est 85% de la population qui n'a jamais eu accès à des services de base ou qui a accès à des services de base sur une base très aléatoire. Donc, dans les townships ou dans les shanty towns, les bidonvilles, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'aqueduc, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas de logement commodique. Il n'y a absolument rien. Donc, il y a très peu de... Le système de santé dans les townships est abominable. Le système d'éducation aussi. Donc, le point, c'est de dire, les Noirs... OK, à partir de maintenant, quand je dis les Noirs, c'est les Noirs en général, donc ça inclut tout ce qui est non-blanc, tout ce qui était marginalisé sous l'apartheid, ce qui est un point politique important à faire aujourd'hui en Afrique du Sud, ne pas parler des Noirs strictement pour les Africains, mais de toutes les populations non-blanches qui avaient été exclues de la démocratie, donc blancs, donc indiens, métis et africains. Donc, premier point que le RDP met sur la table, c'est qu'il faut rendre les services essentiels à ces populations noires-là. De deux, il faut repartir l'économie, parce que depuis 1976, je veux dire, le pays éclatait de partout. Il y avait énormément de dépenses qui avaient été mises sur l'armée, la police, les services secrets, la troisième force, donc toutes les forces d'infiltration des mouvements de libération. Le gouvernement d'apartheid avait dû s'endetter énormément. Donc, un paquet de contraintes structurelles qui fait que l'économie bloquait énormément. L'économie est en décroissance depuis la fin des années 70 environ. Faut repartir la croissance économique. Troisième gros problème, il y a un problème d'emploi. Aujourd'hui, c'était moins pire. En 94, on parlait d'un taux de chômage d'environ 30%. Le taux de sans-emploi aujourd'hui est plus de l'ordre de 40-45%. Au départ, il y avait ce problème de sans-emploi-là. Le RDP dit, on va prendre ça de front, on va prendre ces trois problèmes-là de front. Prônant quoi? En prônant un rôle proactif du gouvernement. Le gouvernement va investir pour rendre les services essentiels aux quartiers noirs. Donc, l'État va investir pour amener l'eau, amener l'électricité, construire du logement social, réduire le système d'éducation dans les townships et les communautés noires. En faisant ça, on va non seulement partir l'économie, puis on va aussi créer de l'emploi. Ça va être des sans-emploi qui vont mettre en œuvre ces programmes-là. Donc, on délivre des services, on crée de l'emploi, donc en même temps, je veux dire, l'État s'endette un peu, injecte de l'argent, et en bout de ligne, l'économie va repartir. Ça a duré à peu près un an, de 94 jusqu'à 95. À partir de 95, il y a une pédale on lâche la pédale un peu et on crée une commission parlementaire sur la croissance économique qui va être présidée par le vice-président de l'époque, Thabo Mbeki, qui est aujourd'hui le président. Cette commission-là va aboutir à quoi? À une politique macroéconomique qui s'appelle le GEAR, Growth, Employment and Redistribution, croissance, emploi et redistribution. Ça a l'air très beau comme titre, là, mais c'est assez aberrant. En fait, l'ANC va dire encore aujourd'hui que la politique de développement, c'est la RDP, et que le GEAR n'est qu'une facette du RDP qui est supposée faciliter sa mise en œuvre. Donc, c'est le GEAR serait seulement une petite virgule au niveau macroéconomique, alors que le programme de développement reste la RDP. Ce qui est totalement... malhonnête, parce qu'on sait très bien que cette petite virgule-là macroéconomique empêche toute forme d'investissement de l'État, empêche toute forme de rôle proactif de l'État, empêche toute forme de protection économique au niveau de la concurrence extérieure sur les marchés intérieurs. GEAR parle de quoi? Parle de contrôle de l'inflation, donc des taux d'intérêt qui sont très élevés afin de contrôler l'inflation, taux d'intérêt qui sont tellement élevés que personne ne veut emprunté à la banque pour investir. Les tarifs douaniers ont été réduits à 0% pour la majorité des secteurs, alors que l'OMC permet encore d'avoir des fois jusqu'à 20% de protection économique. Thabo Mbeki a dit non, on va aller jusqu'à zéro. Il avait 5 ou 10 ans, il y avait une certaine période pour arriver à un quota maximal de tarifs douaniers. Thabo Mbeki va faire ça en dedans de quelques mois. Thabo Mbeki qui était allé une fois en Californie puis qui s'adressait à une chambre de commerce puis qui disait « Voyons, c'est quoi, on fait tout ce que vous nous avez demandé, on a tout libéralisé, on a tout enlevé les tarifs, puis vous venez pas plus investir chez nous. » Il voulait convaincre les Californiens de venir investir, mais en même temps, il révélait assez l'absurdité la non-efficacité de ces politiques tarifaires-là. Seulement pour finir sur Gear parle énormément de programmes de privatisation, pas en disant le mot aussi clairement, mais en parlant de partenariat public-privé. L'État doit se retirer, l'État n'a pas de cash, l'État n'est pas efficace pour la majorité des secteurs, donc il faudrait faire appel au secteur privé afin de délivrer les services. L'État ne sera pas capable d'électrifier toutes les campagnes, mais le secteur privé serait capable. Même chose pour l'eau, même chose pour le logement social. Pendant que quand le GEAR sort à l'été 96, le ministère du RDP est déjà fermé. Depuis quelques mois, le ministère du RDP va exister pendant un an et demi. Ministère qui n'avait aucun budget, mais qui devait seulement vérifier que tous les autres ministères mettaient en place le RDP. Donc, c'est à partir de GEAR qu'on va voir non seulement l'impact direct sur les populations pauvres en Afrique du Sud des politiques néolibérales qui sont contenues dans GEAR, mais c'est aussi à partir de la mise en place de GEAR, ou après 2-3 années, qu'on va voir ressurgir les nouvelles formes de résistance, les nouveaux mouvements de résistance en Afrique du Sud.
Avec le GEAR, le gouvernement sud-africain s'est déresponsabilisé dans les mesures de protection sociale qui existaient au pays. C'est avec des coupures dans tous les services publics comme l'eau, l'électricité, le logement, la santé, le secteur agraire et dans l'éducation que le gouvernement a provoqué une réaction de résistance populaire. François Lécuyer nous donne un portrait détaillé de la situation. Comme vous allez l'entendre, les gens ont décidé de mettre sur pied des réseaux de résistance efficaces pour défendre les sans-logis.
Partout à travers le pays, en 94 et 95, l'État a construit, a investi pour construire du logement social. Ça a duré environ un an. Ils ont construit ce que les Sud-Africains appellent des niches ou des boîtes d'allumettes, des petites maisons de 2 pièces ou 3 pièces, un peu n'importe comment, mais anyway, aujourd'hui on appelle ça les maisons RDP. C'est les maisons qui ont été construites durant le programme RDP en 94-95. Avec l'arrivée de GEAR sur la table, mais le gouvernement s'est complètement désinvesti de ce secteur-là. Il dit, on n'a pas l'argent pour investir dans le logement social, les banques en ont, donc les banques vont investir pour construire ces maisons-là. Le gouvernement avait aussi une politique de 3 000 $ pour chaque famille qui était dans le besoin, 3 000 $ afin de s'acheter une maison. Donc, les gens vont prendre ces 3 000 $-là, mais comme les banques ont construit des maisons qui coûtent pas mal plus cher que 3 000, ils vont prendre une hypothèque avec les banques. Donc, c'est les banques qui financent la construction, ils te donnent une hypothèque pour que tu achètes la maison. Puis, après ça, ben, comme le taux de sans-emploi va augmenter grandement, ben, les gens vont se retrouver après 2 ans, 3 ans avec des difficultés de payer. Donc, ben c'est ça, comme ils sont pas capables de payer leurs hypothèques, souvent on attend quoi, 2-3 mois qui sont fautifs. Les banques appellent le shérif, l'armée, la police, et tu as des équipes d'éviction qui débarquent dans les townships et qui foutent le monde à la porte. Bon, pour terminer sur Cape Town, à partir de 99-2000, il y a des oui, on appelle ça des nouveaux mouvements, mais je veux dire, la question, la lutte contre les mouvements forcés ou les évictions, ça se passe quand même depuis le début du siècle. Je veux dire, les populations noires ont toujours résisté parce que l'apartheid faisait ça, bougeait des quartiers comme il voulait, il rentrait avec des bulldozers, puis c'était un quartier au complet qui était déplacé, afin de laisser un nouveau quartier résidentiel pour des classes blanches de travailleurs, admettons. Mais les mouvements vont se réorganiser quand même parce que les organisations de quartier, les civics, sont très alignés avec l'ANC. Qui met ces politiques-là en place, c'est l'ANC, tant au niveau national qu'au niveau provincial qu'au niveau municipal. Donc, une série d'activistes qui étaient très actifs dans les années 80, à la fin des années 90, vont se réorganiser, vont créer le Anti-Eviction Campaign. En fait, la stratégie de ce mouvement-là, c'était quoi? Ils se sont rendus compte que si on est capable de mettre 150-200 personnes dans la rue quand l'équipe d'éviction vient, puis on est capable de résister un peu physiquement à l'éviction, la police aura le choix ou bien de nous tirer dessus, lacrymo, rubber bullets, etc., ou bien vont venir un autre jour. T'sais. Donc, pendant 2000, 2001, 2002, je veux dire, dans les townships de Kailicha, dans les townships de Mitchell's Plain, de Fréjon, je veux dire, il ne se passait pas une semaine sans qu'il n'y ait pas des résistances comme ça qui s'organisent de façon totalement spontanée, parce que les gens ne savent jamais quand est-ce que les évictions vont se passer, mais il y a quand même un réseau qui existe qui fait que quand on voit les équipes d'éviction arriver au bout du township, en dedans de 5 minutes, on est 200 puis on protège la voisine. Ça a été qui c'est qui les premières victimes de ces évictions-là, mais c'est ceux qui sont en difficulté de payer. C'est des personnes âgées, des mères monoparentales, des sans-emploi. Mais le nombre de femmes monoparentales et de grand-mères qui ont été visées par ces campagnes d'éviction-là a été complètement absurde. C'était épouvantable. Puis ça l'a aussi entraîné, c'est une attaque qui est très violente. La seule affaire que t'as dans la vie, c'est une petite maison dans le fin fond d'un township, puis on veut te sortir de là. Tu te retrouves où? Tu te retrouves dans la rue. T'as absolument rien. Donc, la violence l'impact de ces politiques néolibérales-là est tellement violent que, les gens répondent de façon violente aussi. La seule façon de se protéger, c'est de résister physiquement. C'est de faire des cordons humains autour des maisons, puis attendre que la police nous tire dessus. Puis bon, à Cape Town, il y a énormément de répression au niveau des activistes de cette anti-eviction campaign-là. Aussitôt que tu refuses de te disperser quand la police donne un avis de dispersion, mais tu peux être arrêté, tu peux être mis en taule pendant 3-4 jours avant que tu puisses apparaître en cour et être libéré sous caution, moyennant une caution d'environ 200$, ce qui n'est pas rien, et finalement pour avoir un procès ou par après. Les banques, il y a en fait 5 banques à Cape Town qui sont impliquées dans ce système-là, et il y a Surfcon. Surfcon qui est en fait la seule partie vraiment parapublic qui reste. C'est le seul niveau d'engagement de l'État actuellement au niveau du logement social à Cape Town. Surfcon, c'est à moitié privé, à moitié possédé par le gouvernement. Et ça sert à quoi? Ça sert à payer les hypothèques du monde qui sont pas capables de payer aux banques. Donc le gouvernement prend du fric, paye les hypothèques aux banques. Et après ça, s'assure que le monde les repaye ou qu'ils sont crissés à la porte. On n'a pas d'argent pour du logement social, alors les banques vont faire ça et crisser le monde à la porte si le monde n'est pas capable de payer, mais on a quand même l'argent pour couvrir les hypothèques non payées pour les banques. Donc, la seule personne qui ne doit pas perdre du fric, c'est les banques. Puis ça, le gouvernement est prêt à mettre du fric là-dedans. Puis, en bout de ligne, Surfcom fait quoi? Mais c'est Surfcom qui engage des compagnies privées d'éviction ou qui engage la police ou l'armée pour aller mettre le monde à la porte. Tellement aberrant que dans un township comme Mitchell's Plain, qui est le principal township color, il doit y avoir un demi-million ou sinon un million d'habitants dans ce township-là, pour le gouvernement provincial, le ministère du logement au niveau provincial, il y a plus d'argent qui est mis sur des évictions que sur la construction de logements sociaux. Un genre de contradiction qu'on retrouve assez souvent à Québec. Donc, un moment donné, les cinq banques et Surfcon se sont mis ensemble pour demander un interdict sur quatre membres de Kailicha, de la Anti-Eviction Campaign, du comité de Kailicha, de la Anti-Eviction Campaign, qui disait qu'à partir d'aujourd'hui, et ils ont eu cet interdit-là, la Cour, le système de justice leur a accordé l'interdit, qui empêche Max Funky et Ntsebe et un autre gars d'avoir, de participer à n'importe quel meeting communautaire. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de contacter, de jaser avec des gens qui ont reçu des menaces d'éviction par les banques. Ils n'ont pas le droit de contacter des gens qui ont été évictés de leur maison. Donc, je veux dire, au niveau de liberté de mouvement, liberté d'expression, liberté de parole, liberté d'association, je veux dire, c'est des attaques grossières sur les droits humains. Ce qui fait qu'un gars comme Max a été réarrêté 2-3 fois. Deux fois, il a fait environ 3-4 semaines de prison. Pourquoi? Parce qu'il avait participé à des meetings. Donc, à partir du moment où il y a cet interdit-là sur des activistes, je veux dire, on peut les rattraper n'importe quand, parce que, je veux dire, ces gars-là continuent quand même à assister aux meetings communautaires de leur quartier. Donc, je veux dire, pour terminer sur la question de la violence, je veux dire, oui, à un moment donné, il y a des chars qui sont mis à sauter à Kailicha parce que on refusait systématiquement à des leaders comme Max une liberté sous caution. Il y a eu des maisons qui ont été incendiées, il y a eu des bureaux du ministère du logement qui ont été occupés. Et je veux dire, le nombre de lacrymogènes, de rubber bullets et de vraies balles qui ont été tirées sur des citoyens, sur des grands-mères, sur n'importe qui, c'est assez épouvantable. question de l'eau est tout aussi aberrante. J'ai pas les statistiques exactes là, par rapport au, à la proportion de gens qui n'avaient pas accès à l'eau et au système sanitaire en 1994, mais disons qu'il y avait énormément de populations embranchées. À Johannesburg, il y avait le Rand Water. Okay. Le Rand, c'est la région de Johannesburg. Le Rand Water était le fournisseur. Il y avait le Johannesburg Water qui était le distributeur. C'était tout public. Mais le Johannesburg Water passait, avait des ententes avec les municipalités, donc des fois c'était la municipalité qui distribuait l'eau. Okay? Donc en bout de ligne, c'était public, mais au niveau municipal. Mais encore là, c'est non, il y avait quand même des systèmes municipaux différents pour les townships que pour les secteurs blancs. Genre, la Johannesburg Water délivrait directement aux quartiers blancs. Okay? Mais pour les townships, ils passaient à travers l'administration municipale des townships. Donc, comme il y a un troisième joueur, mais c'est des coûts en plus. Donc, les townships payaient leur eau plus cher que les quartiers blancs. Même chose pour l'électricité, c'est Eskom, la compagnie nationale d'électricité, qui délivre directement dans les quartiers blancs. Dans les townships, ils passent à travers le système d'administration municipale des townships, ce qui fait que l'électricité à Soweto est environ 30% plus chère que dans un quartier blanc. Parce qu'il y a un acteur de plus, un distributeur de plus. Et puis ça, c'est des contradictions qu'on retrouve encore aujourd'hui. Le bordel qui s'est passé avec le programme de privatisation de l'eau, c'est comme c'est en dernier recours qui fait la distribution et la facturation et l'entretien, c'est les municipalités. Donc, le programme de privatisation de l'eau, c'est pas fait à un niveau national, mais à travers un paquet de municipalités en Afrique du Sud. Ce qui a laissé lieu à une situation extrêmement chaotique. Il y a des. Et qu'est-ce qui est privatisé? Des fois, c'est seulement le système de facturation. C'est une compagnie française du type Suez-Lyonnaise ou Vivendi qui a été les plus gros acheteurs des systèmes d'eau en Afrique du Sud. Des fois, ils prennent juste comme contrat le système de facturation. Comme c'est eux qui ont le système de facturation, tu ne payes pas, mais c'est eux qui vont venir te déconnecter directement. Donc, la municipalité se déresponsabilise un peu. L'administration publique se déresponsabilise par rapport à la relation directe que tu as avec le consommateur, avec le citoyen, pour laisser ça en sous-traitance à une compagnie privée. La plupart du temps, donc, c'est la distribution, l'entretien, le service de facturation qui a été donné à contrat à des gens du type Suez ou Ondeo qui est. Ondeo, qui est la filiale de Suez, puis Vivendi Water, qui est devenu un autre truc parce qu'ils ont changé de nom. Mais c'est ça. Donc, on a vu quoi? On a vu des augmentations de tarifs allant jusqu'à 600%. L'eau, ça coûte quand même. Moi, à Johannesburg, je payais à peu près 20$ par mois pour mon eau. 20$ par mois pour mon électricité. Si tu rajoutes 60$ pour tes taxes foncières pour quelqu'un qui habite dans une petite boîte d'allumettes à deux chambres dans un township, c'est environ $60. Donc 20$ pour l'eau, 20$ pour l'électricité, 60$, on est rendu à 100$ par mois, puis tu n'as même pas payé ni ton loyer ou ton hypothèque ou ta maison. Juste en frais fixes. Le système d'eau et d'électricité, avant, c'était, je parle de frais fixes, mais un autre truc, l'eau et l'électricité, c'était des flat rates. Tu payais à peu près 5$, puis tu utilisais l'eau comme tu le voulais. La politique qui est contenue dans Gear, qui mène à tout ça, c'est l'idéologie du cost recovery. On ne peut pas dépenser de l'argent à finir sur des services essentiels, il faut que ça couvre ses frais. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va charger les gens en fonction du nombre de litres qu'ils vont consommer ou du nombre de kilowatts qu'ils vont consommer pour l'électricité, afin qu'en bout de ligne, les entreprises publiques soient rentables. Ça va être encore plus facile à privatiser. À partir de 2000, il y a eu des impacts assez graves. Il y a eu une série de villages en zone rurale du KwaZulu, qui est l'ancien Bantoustan des Zoulous, qui ont été coupés. carrément coupés. En fait, tous ceux qui n'étaient pas capables de payer, environ 75% de la population qui ont été coupés, puis il y a des villages qui ont été coupés systématiquement. Que tu payes ou que tu payes pas, le village n'est pas rentable, on les a coupés. Les gens ont été obligés d'aller chercher leur eau dans des rivières environnantes, ce qui a provoqué la plus grosse épidémie de choléra de l'histoire en Afrique du Sud. On parle de 200 000 cas d'infection. Les chiffres varient entre 200 000 et 300 000, donc disons 200 000, et on parle de 300 morts surtout, en l'espace de 3 mois à l'été 2001, je crois. Il y a une autre épidémie de choléra qui est partie l'an dernier, en 2002, dans le Eastern Cape, dans le sud-est du pays. 30, 50, 60 morts. Je veux dire, ça, c'est de l'impact direct d'une politique néolibérale qui mène à la situation où on te coupe parce que t'es plus capable de payer. Donc, je veux dire, c'est l'accès à l'eau. Il n'y a pas de droit aussi essentiel que l'accès à l'eau qui est reconnu partout. T'sais. Mais pour des impératifs économiques, pour des impératifs de recouvrement des coûts, ben, on coupe les gens. Électricité, un peu le même truc, c'est la même rengaine de recouvrement des coûts. Il y a des gens qui peuvent dire que l'électricité, c'est quand même un luxe ou qu'on n'a pas nécessairement besoin de ça. Il y a quand même l'hiver en Afrique du Sud. À Johannesburg, l'hiver, il fait zéro la nuit. Les maisons ne sont pas isolées. Une boîte d'allumettes du genre RDP House, là, c'est très frais. Pour toute l'Afrique du Sud, il y a environ 40 000 morts par année dues à la consommation du kérosène ou de la paraffine pour se chauffer. Les gens utilisent ça pour se chauffer ou pour s'éclairer. Il y a des petites montagnes à Johannesburg, là, quand tu es sur les petites montagnes puis tu regardes le sud, là, toutes les townships de Soweto, il y a des smogs. À partir de 5 heures le soir, tu vois les smogs se créer parce que les gens n'ont plus d'électricité, donc ils se chauffent, ils s'éclairent, ils font à manger à partir de la combustion de la paraffine. Ça crée environ 40 000 morts par année en troubles respiratoires. On parle de 10 millions de personnes qui ont perdu accès à l'électricité depuis 1994, puis 10 millions de personnes qui ont perdu accès à l'eau depuis 1994 aussi, sur une population de 45 millions. C'est à peu près le quart de la population. Donc c'est ça, il y a plein de gens qui n'ont plus du tout d'électricité à Soweto. La nouvelle tactique du gouvernement, c'est de dire, bon, on ne va pas vous déconnecter, vous allez vous déconnecter vous-même. On va installer des prepaid meters. Ça, c'est des petites machines qu'il y a à côté de ton compteur d'eau puis à côté de ton compteur d'électricité. Puis là, mais t'achètes des unités, un peu comme t'achètes une carte d'appel, genre, t'achètes des unités, ça te coûte, admettons, 20$. Puis là, t'as de l'eau pour 2 semaines à peu près. Puis tu rentres chez vous. Puis tous ces trucs-là à l'unité, la consommation quand t'es rendu à un système d'unité, que ce soit pour le téléphone, l'eau, l'électricité, ton eau, ton électricité en bout de ligne te deviennent beaucoup plus chères qu'un système normal de quelqu'un qui est capable de payer puis qui n'a pas ce système-là. Le litre d'eau, le kilowatt d'électricité est beaucoup plus cher avec ce système d'unité-là. Ce qui attaque directement les classes pauvres du pays. Donc, c'est ça. T'as ton meter, puis là, t'achètes ta petite carte, puis t'en as pour 30$, puis tu rentres ton 30$, fait que là, ça va te donner tant de litres d'eau, puis quand les unités sont finies, ben l'eau arrête. T'es à la moitié du mois, tu vas recevoir ta paye dans 2 semaines, c'est pas grave, sèche, tu sais. Le gouvernement est assez cynique parce qu'il dit non, on a une politique d'eau gratis. 6000 litres d'eau par mois, ce qui est pas vraiment beaucoup pour une famille de 7-8 personnes dans une maison. Où c'est genre tire la toilette deux fois par jour, puis fais trois pas plus qu'une bouilloire d'eau pour ton thé, puis etc. etc. Anyway, ils disent, ouais, non, le monde ne manquera pas d'eau parce qu'il y a quand même 6000 litres d'eau gratis pour tout le monde. Sauf que ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'avant de te donner ton 6000 litres d'eau, paye tes dettes. Si tu payes tes dettes, parce que ce qu'ils font, ils te coupent. First, ils te coupent. Deux, ils disent, si tu veux l'eau, on va t'installer un prepaid meter. C'est pas le choix, là. Si tu veux avoir ton eau, c'est strictement à travers un prepaid meter. Puis là, si tu veux qu'on mette le prepaid meter puis qu'on te donne 6000 litres d'eau gratis par mois, ben, tu vas payer tes dettes. Depuis 90, 92, 94, t'as, admettons, 6000 piastres de pas payer. Puis ça, je veux dire, des familles qui ont 6000 piastres de dette sur l'eau ou l'électricité, c'est très commun. 6000 piastres, je veux dire, c'est de l'argent anticipé pour un pays où la moitié du monde a moins de 15 piastres par jour. 15 piastres par mois. Mais d'un, il y avait un truc. Il n'y a pas juste la possibilité d'accepter ce que le gouvernement dit, puis de payer tes dettes, puis d'avoir un prepaid meter. Tu peux aussi t'arranger pour reconnecter toi-même. Reconnecter ton eau, reconnecter ton électricité, et souvent réoccuper ta maison. Ça peut arriver aussi. Ça, c'est des pratiques, je veux dire, c'est des pratiques qui existent en Afrique du Sud depuis toujours. On a des gens qui se connectent illégalement à l'électricité. De toute façon, c'est pas juste en Afrique du Sud, c'est un peu partout dans le monde. Fait que c'est plein de citoyens qui se reconnectaient au système d'eau, au système d'électricité à leur guise. Sauf qu'il y avait quand même ces gens-là étaient quand même réprimés, c'est illégal, donc t'es passible de poursuites et tout et tout. Donc, les premiers mouvements qui sont créés, ça a été un peu pour légitimer ces pratiques-là qui étaient communes dans les townships. On parle, dans la région de Johannesburg, du Soweto Electricity Crisis Committee, qui a une équipe de techniciens depuis... ils sont formés autour de 2000. Ils ont une équipe de techniciens. En fait, ça avait commencé... Les gars de Johannesburg avaient mis une annonce dans le journal. Est-ce que vous avez eu des coupures récemment d'électricité? Si oui, appelez-nous. En dedans de deux semaines, on recevait à peu près 30 appels par jour. De gens qui étaient là, moi j'ai été déconnecté. Ah, mais ça va, madame, on va aller vous reconnecter. Donc, c'est une équipe de techniciens bénévoles qui connaît très bien leur truc, qui utilisent les bons fils et tout et tout. Puis c'est un peu, pour standardiser ces reconnexions-là, qui étaient faites un peu n'importe comment. Je veux dire, tu peux pas prendre un fil de 2 mm pour faire 30 mètres. Ça marche pas, faut que tu aies un peu de connaissances. Donc, c'est des gens qui travaillaient des fois pour ESCOM, pour la Compagnie nationale d'électricité, et qui faisaient du bénévolat le soir. Ou c'est des électriciens sans emploi, ou c'est des gens de Soweto qui sont mis ensemble, ils ont créé une équipe de techniciens qui visitent et qui reconnectent les gens comme ça.
Vous écoutez une émission spéciale sur l'Afrique du Sud et les programmes de privatisation en Afrique du Sud avec François Lécuyer, qui est chargé de programmes pour l'Afrique à Alternative. Comme nous le dit François, c'est à l'université de Wits, l'université de Witwatersrand, à Johannesburg, qu'il y a eu une des pires rationalisations universitaires dans toute l'Afrique du Sud. C'est en s'unissant avec les travailleurs municipaux de la ville de Johannesburg qui ont perdu leur travail dans le cadre du plan de rationalisation Egoli 2002, à travers lequel l'administration municipale se débarrasse de milliers de travailleurs municipaux, que les étudiants et les travailleurs municipaux se joignent et forment une nouvelle organisation.
Avitz, c'était un peu différent, mais c'était dans la même idéologie. C'était la restructuration de l'université en général. Dégraisser un peu, là, afin de sauver de l'argent. Donc, on parle de 40 départements qui ont été fermés ou fusionnés. 40 départements, donc des départements du type littérature africaine, pas rentable, des départements du type littérature comparée ou géologie ou des trucs du genre, c'est pas rentable, il n'y a pas assez d'étudiants là-dedans, on va fermer ça. D'un autre côté, c'était la restructuration des services universitaires aussi. Donc, les services de cafétéria, de buanderie, de résidence, de nettoyage, de jardinage, tous les employés de l'université, mais tout ça, ça a été donné en sous-traitance aussi. C'est 900 employés à l'Université de Vitz qui ont perdu leur job. Donc, il y avait des fédérations étudiantes à Vitz, à l'Université de Witwatersrand, bien sûr, mais c'est plus ou moins affilié avec l'ANC. C'est à travers SASCO, le South African Student Congress, qui est très proche de l'ANC au pouvoir. Un peu comme ce qui se passe ici, je veux dire, tu vas à la FEUC avant d'aller faire ta carrière au PQ, au Parti libéral, tremplin pour les carriéristes politiques. Donc, il n'y avait pas de résistance qui s'organisait au niveau des fédérations étudiantes de l'Université de Vitz. Donc, il y a un petit comité qui s'appelait le Vitz Crisis Committee, le comité de la crise de Vitz, Vitz qui est l'abréviation pour Witwatersrand, qui va se mettre sur pied afin de résister à ces transformations-là. Ce qui va être pas innovateur, mais très intéressant, c'est que les étudiants ne vont pas se mobiliser seulement pour leur petit nombril, mais vont aller mobiliser les travailleurs de l'université aussi, qui étaient menacés de perte d'emploi. Bien sûr, ils vont perdre la bataille. Les 900 personnes vont être mises à la porte. Les 45 départements vont être fermés. Mais quand même, il y a eu cette synergie-là entre étudiants et travailleurs qui s'est passée. Non seulement ça, mais à un moment donné, les gens du Vitz Crisis Committee vont rencontrer les gens du Anti-Egoli 2002 Committee, puis ils vont dire, hey, est-ce qu'on n'est pas en train de lutter pour la même chose? Est-ce que c'est pas un programme de restructuration qui aboutit en bout de ligne par un programme de privatisation, tant au niveau de l'université qu'au niveau des services de la ville? Ah, mais si on bat la même affaire, pourquoi on se met pas ensemble afin d'être plus fort? Donc, on va assister à la fusion de ces deux comités-là, les travailleurs municipaux et des étudiants et des travailleurs de Vitz, qui vont former quoi? Le APF, Anti-Privatization Forum, Forum anti-privatisation, autour de juillet 2000, que ça s'est formé.
En 2002, lors du sommet des pays du G8 à Kananaskis, le NEPAD, le nouveau partenariat économique pour le développement de l'Afrique, est annoncé comme un grand programme qui amènera enfin ce continent vers un vrai développement. Mais le NEPAD n'est rien d'autre qu'une adaptation du GEAR au reste de l'Afrique. François Lécuyer explique comment Thabo Mbeki, le président sud-africain, s'est donné comme mission d'étendre ses projets au reste de l'Afrique.
Que les gens comprennent pas toujours, c'est qu'il y a des acteurs prépondérants, proéminents, majeurs là-dedans, qui est principalement Thabo Mbeki d'Afrique du Sud. C'est Thabo Mbeki qui a lancé toutes ces idées-là. Thabo Mbeki avait écrit auparavant le MAP, le Millennium Africa Recovery Plan. Ça, c'était son plan de développement. Puis, en fait, comme Wade avait écrit un plan Omega au Sénégal, ils ont fusionné ça ensemble. Ça s'est appelé la Nouvelle Initiative Africaine pendant un bout de temps. Puis après ça, c'est devenu le NEPAD, le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique. Ouais. Pourquoi je dis que le rôle de Thabo Mbeki est majeur? Parce que non seulement le Nepal, en bout de ligne, ressemble beaucoup plus à son plan MAP qu'au plan Omega de Wade au Sénégal, mais c'est Thabo Mbeki qui s'en est fait le plus grand défenseur. Thabo Mbeki, à partir de... En 2000, il était au Forum économique mondial. En 2001, il est allé voir l'OMC, la Banque mondiale, la FMI. En 2002, c'était le G8 à Kananaskis. Il en avait parlé au Japon auparavant. Il était sur toutes les tribunes. Thabo Mbeki se promenait partout et parlait de quoi? Du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Encore cette année, à Evian, Thabo Mbeki était là pour vendre sa salade encore. Plan qui a été mis à part pour les Américains, qui ont leur propre programme bilatéraux de développement. Si tu libéralises tes marchés, on va faire du business avec toi, sinon crève. Les Américains ne sont pas chaud à l'idée du Népal. Mais bon, l'Union européenne, les Britanniques, les Français, les Canadiens, le Japon, Banque mondiale, l'ONU, tout le monde a acheté là-dedans. Puis c'est comme la grosse patente. Ça devient dangereux où? Ça devient dangereux quand on regarde ce qui s'est fait en Afrique du Sud depuis. Un peu ce dont je parlais, programme de privatisation et de restructuration au niveau des services essentiels en Afrique du Sud. Mais ça, c'est quoi? C'est GEAR. GEAR, qui est exactement la même chose que le Népal, mais au niveau national. Les slogans durant tout le sommet sur le développement durable à Johannesburg l'an passé, c'était quoi? C'était NEPAD Gear for Africa. C'était un message très clair que les Sud-Africains lançaient à leurs frères africains. C'est que, écoutez, nous, on ressent depuis 1996, on ressent directement les impacts d'une politique néolibérale de développement. Ça s'appelle Gear chez nous et on veut vous vendre ça sous le NEPAD pour tout le continent. Faites attention, renseignez-vous, regardez ce qui s'est fait en Afrique du Sud avant de... puis je veux dire, la société civile, les gouvernements africains sont même pas au courant de ce que c'est Népal. Quand on regarde Népal, le concept qui revient le plus souvent, c'est des partenariats public-privé. C'est exactement la même histoire qui se passe en Afrique du Sud, c'est la même histoire qui va se passer à l'ensemble du continent africain. C'est des services municipaux d'eau potable qui vont être privatisés, c'est des services d'électricité, c'est des services de logement, c'est des services bancaires, c'est... name it. La seule... Puis bon, je veux dire, pourquoi on a besoin d'un programme de développement? Je veux dire, les business américaines, canadiennes, européennes peuvent aller faire du commerce n'importe quand en Afrique. Là. Pourquoi ce serait plus alléchant pour eux en ce moment? Qu'est-ce qui reste en Afrique? Où est-ce qu'on peut faire de l'argent? C'est les derniers bastions publics que sont le logement, l'eau, l'électricité, services portuaires, etc., etc. C'est encore détenu par des entreprises publiques dans la majorité des pays. Partenariat public-privé, une entente de ce type entre les pays africains et les pays européens, c'est libéraliser donc votre économie, laissez-nous donc venir faire un peu de fric là-dedans, puis ouais, on va venir développer votre continent. C'est toujours dans cette perspective-là que le secteur privé serait plus en mesure de délivrer les services essentiels aux populations que le service public. Je veux dire, on vient de voir à quel point les tarifs ont été augmentés et à quel point il y a des coupures de services partout quand le secteur privé prend en charge ces services-là. Aussi, toujours dans cette... on nous vend le Népal en nous disant les gouvernements africains n'ont pas de fric, les gouvernements africains ne sont pas en mesure de donner ces services ces services-là aux populations rurales éloignées, donc on a besoin du secteur privé. Mais bullshit, je veux dire, on a démoli les États africains pendant 20 ans à coup de programmes d'ajustement structurel, on les a forcés à rembourser des dettes, à diminuer leurs dépenses publiques. Je veux dire, c'est vrai que les gouvernements africains ont plus de capacité du tout, c'est vrai, mais je veux dire, quand on regarde ça dans une perspective un peu plus longue, sur 20-40 ans, on se rend compte que, oui, la Banque mondiale puis la FMI ont imposé des plans d'ajustement structurel partout, qui ont tué totalement les États africains, qui ont tué toute forme de social-démocratie en Afrique. Puis après ça, on leur dit quoi? Ben maintenant, c'est l'ère du Népal. Ayez vos initiatives africaines en autant que ce soit des partenariats publics-privés. C'est très dangereux, c'est très dangereux. On parle de programmes de privatisation de l'eau au Niger, au Ghana, au Maroc, en Afrique du Sud, au Kenya bientôt, en Tanzanie. Je veux dire, c'est ça qui s'en vient. Mais si on est en train de privatiser quelque chose d'aussi essentiel que l'accès à l'eau dans un continent où il y a à peu près la moitié du monde qui n'ont pas encore d'accès à l'eau, puis on s'imagine que le secteur privé va donner cet accès à l'eau-là à la moitié des populations qui n'en ont pas, je veux dire non, ils vont donner l'accès à 10%, à un nouveau 10% en débranchant à 40%. T'sais. C'est à peu près ça qui se passe en Afrique du Sud. 1 million de nouvelles connexions pour 10 millions de déconnexions.